nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du Deutéronome, ou d'abord dans le livre des Nombres, d'abord, Nombre 27. Un premier texte dans le livre des Nombres, au chapitre 27. Quelques versets concernant un ordre de l'Éternel à Moïse. Nombre 27. L'Éternel dit à Moïse: prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Dans la conclusion du livre du Deutéronome, c'est-à-dire au chapitre 34, quelques versets, les derniers versets de ce livre du Deutéronome, donc qui ouvre sur Josué, Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Nous y ajoutons un dernier texte, celui qui va servir de base à notre réflexion, tout au moins au début, dans le livre de l'Exode. Livre de l'Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Exode 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Je suppose que qu'à la lecture de ces trois textes, vous avez pu discerner entre les lignes que nous allions nous entretenir d'un personnage qui est présent dans ces trois passages. Il s'agit de Josué. Josué, qui est né en Égypte, qui a vécu une bonne quarantaine d'années en Égypte. Il a donc vécu comme esclave de Pharaon, avec tout ce que cela pouvait signifier de difficile pensez au début du livre de l'Exode, Josué, un descendant de Joseph, de la tribu d'Éphraïm, une des grandes tribus, puisque le royaume du Nord, à partir du moment où il y a eu schisme après Salomon, a porté le nom de cette tribu. Si vous lisez le livre d'Osée, vous verrez, je crois, près d'une trentaine de fois, le terme Éphraïm pour évoquer ces 10 tribus du Nord, parce que c'était vraiment la principale des tribus, et elle avait fini par donner son nom à l'ensemble du royaume du Nord. Et il était donc de cette tribu, et il est d'ailleurs devenu le chef de cette importante tribu. Plus tard, vous avez cette mention dans Nombre 13, verset 8. Il a donc connu la souffrance aux côtés d'Israël, il a vécu ces 10 plaies, ce jugement sur les divinités égyptiennes. Il a vécu la Pâque, ce moment qui annonce la croix, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a connu cette délivrance du joug égyptien, le passage de la mer Rouge, et il a commencé à expérimenter dans le désert bien des choses intéressantes. Il s'appelait Osée, H-O-S-E-E, Osée. Il sauve. Voilà ce que signifie Osée. Et son nom a donc été changé en Josué, Yéhoshua, Jésus d'ailleurs, et tout à fait de la même ligne, mais simplement, c'est rendu en grec, et Josué signifie l'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Il y aurait déjà ici quelque chose à dire, à savoir qu'il est important que nous n'oublions jamais que nous avons été sauvés, que nous ne perdions jamais cet élan de gratitude, de reconnaissance et d'enthousiasme lié en quelque sorte à notre changement de nom. Nous avons été sauvés. Et cela doit provoquer dans nos cœurs un élan de reconnaissance et de fête. Et que nous soyons de ceux qui ne l'oublient jamais. Je pense à ce riche industriel qui, au début du siècle, vivait en Allemagne et qui avait fait ériger un orphelinat pour enfants nécessiteux. Et quand ils entraient dans cet orphelinat, ils entraient avec toute leur misère, dans leur guenille, dans leur haillon, dans leur saleté. Et à leur arrivée, curieusement, le directeur faisait prendre une photographie de chacun d'eux. Et il rangeait cette photographie soigneusement dans les archives de la maison. Et lorsque, dans les années qui suivaient, l'un d'entre eux avait l'audace de se glorifier d'une manière ou d'une autre, le directeur ressortait la photographie en question et disait « Mais regarde ce que tu es en réalité. Si aujourd'hui tu es bien habillé, bien instruit, c'est grâce à ce que j'ai fait pour toi et tu n'as pas par conséquent à te vanter de ce que tu es. » Voyez-vous, dans le train, on a le temps de beaucoup penser, réfléchir, prier, étudier. Et cet après-midi, dans le train, je repensais à certains amis dont j'ai croisé la route ou qui ont croisé la mienne. Et je pensais notamment à un ami que j'ai eu la joie d'amener à Jésus-Christ il y a maintenant une dizaine d'années et qui me fait beaucoup de peine. Et qui me fait beaucoup de peine parce que j'ai un petit peu le sentiment, je souhaite me tromper, qu'il a oublié qu'un jour il a été sauvé. Il a la tête tellement pleine maintenant. N'oublions jamais. N'oublions jamais de remercier. Josué portait un nom qui continuellement lui rappelait qu'il avait été sauvé. C'était plus « il sauve », « il ». C'était l'Éternel qui sauve. Dieu nous donne d'avoir de la mémoire dans ce domaine pour que nous ne soyons jamais tentés par la grosse tête. Vous savez que c'est un des gros problèmes actuellement. On m'a dit de pouvoir partager avec vous, tout à l'heure je l'ai entendu avec reconnaissance, les fardeaux qui sont sur mon cœur, c'est un de mes gros fardeaux. Nous sommes dans un temps où les capacités comptent beaucoup trop et où le caractère a trop peu de place. Et vous savez, les capacités ne changent pas le caractère. Mais le caractère décuple les capacités. Et il ne faut pas faire les choses à l'envers. Nous avons souvent des têtes trop remplies. Je ne dis pas qu'il ne faille pas s'instruire. Mais nous souvenir en permanence que ce que nous avons, nous l'avons reçu. Comme une grâce extraordinaire. Et qu'il aurait vraiment pu en être autrement dans notre vie. Josué. Josué. Alors dans le désert, Dieu va former Josué. Il va le former en le plaçant aux côtés de Moïse, aux côtés de son aîné, aux côtés d'un homme qui a le double de son âge. On pense que Josué avait entre 40 et 45 ans, peut-être plus près des 45 que des 40. Moïse avait 80 ans bien sonnés, et Dieu les a placés côte à côte. L'aîné étant appelé tout spécialement à former le plus jeune, en vue d'en faire le chef, le conducteur d'Israël lors de la conquête du pays promis, le chef des pionniers d'Israël, le chef des pionniers d'Israël. Ça, c'est aussi une vision à ne jamais perdre. Vous savez, plus une église vieillit, plus elle s'installe dans l'arthrose et dans toutes sortes de scléroses. Nous devons nous en souvenir, et c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Et nous devons être vigilants. Vous êtes dans l'église, je dirais, de la première génération, mais vous êtes déjà un certain nombre. Et vous savez que quand on est nombreux, l'arthrose et la sclérose s'installent plus vite. Il y a des caps à passer dans une vie de communauté. Et on a remarqué que le cap des 30, 40, 45, 50 membres, par exemple, est un cap très difficile à passer parce qu'on est bien ensemble. On est tellement bien. Et puis à partir d'un certain nombre, les uns commencent à pouvoir se cacher derrière les autres quand le prédicateur parle, n'est-ce pas? Ou quand il est question de s'engager dans une activité. Quand on est peu nombreux, j'ai le privilège depuis 6 mois de travailler, où je suis rarement sur place, mais très attaché à l'église locale. Tout d'abord parce que j'ai été conducteur avec d'autres d'une église locale pendant 10 ans en Bretagne, avant de beaucoup voyager. Mais j'aime l'église. J'aime l'église locale. Elle est absolument essentielle dans les Écritures. Et j'ai le privilège depuis 6 mois de travailler au démarrage d'un poste pionnier à zéro. Nous avons démarré il y a 5 mois, oui à peu près, à 2 couples. Et puis ça a grandi. Le Seigneur travaille. Maintenant les murs du salon dans lequel nous nous réunissons sont trop petits. Ça bouge beaucoup. Mais combien c'est intéressant. Combien c'est intéressant de voir le souffle de Dieu, l'action de Dieu, et puis de savoir que tout le monde doit être engagé quand on est peu nombreux. Et puis après, ça change. Après, ça change. Alors que Dieu se serve aussi de ses études pour nous aider dans ce domaine à faire le point, pour que nous conservions cette vision pionnière et de multiplication des églises. Vous savez que toute l'histoire de Josué débouche sur la conquête. qui est suivi de l'installation. Et vous savez que quand le peuple s'est installé, les problèmes ont sérieusement commencé. Et ensuite, il y a le livre des juges, alors là, c'est la catastrophe. Nous allons essayer d'ici dimanche d'examiner, je ne sais pas si nous le ferons, nous réussirons à aller au bout, mais 6 textes intéressants dans le Pentateuque, donc à partir de l'Exode, où les deux hommes, Moïse et Josué, sont étroitement associés. J'ai essayé simplement d'observer les rapports entre ces deux hommes. Et je me suis simplement posé cette question, mais qu'est-ce que Josué a pu apprendre aux côtés de son aîné Moïse dans les situations qui nous sont présentées par ces textes? Et je me suis rendu compte qu'il y avait un enseignement à la fois très pratique, mais aussi extraordinaire, et que l'école par laquelle Josué est passé était d'une merveilleuse richesse pour son service futur. Et je dirais que c'est intéressant pour nous. J'ai appris qu'il y a beaucoup d'enfants, entre 4 et 10 ans à peu près, dans votre assemblée. Un potentiel, et un potentiel qui doit être valorisé, formé, éduqué, et surtout pour qu'ils aient envie de se tourner vers Christ, et que sortent de ces dizaines d'encens, nous attendons le Seigneur. Nous devons vivre à la fois à court terme et à long terme. Hein. J'attends le Seigneur, il peut revenir n'importe quand ce soir. Mais en même temps, je dois quand même faire des projets. Ça, c'est l'équilibre de la vie chrétienne. Et nous savons que si le Seigneur tardait encore un peu, mais je pense que c'est très peu s'il tarde, très peu, à cause de l'évolution très rapide, de l'accélération brutale des événements sur la planète et à l'échelle planétaire. Il importe que de votre communauté se lèvent des missionnaires. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui s'engagent à fond pour le Seigneur et qui se lèvent. Et pour la France aussi de l'intérieur. Ce véritable désert. Pensez à la région parisienne. Avec la grande couronne, entre 10 et 12 millions d'habitants, 250 églises évangéliques. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des besoins énormes. Alors il y a un potentiel dans votre vie de communauté absolument fantastique. Mais ces enfants regardent. Ces enfants ont des antennes. Et ils regardent vivre leurs parents, c'est quelque chose à la maison, et ils regardent vivre leur église. Et ils regardent donc les relations que vous avez les uns avec les autres. Et c'est essentiellement cela ce qui va jouer un rôle capital dans l'avenir qui leur est réservé. Josué, Moïse, les aînés par rapport aux plus jeunes. Josué a pu regarder à Moïse. Certes, il devait d'abord regarder à l'Éternel. Il faut que notre regard passe de l'autre sur le Seigneur. Mais enfin, Moïse a inspiré Josué. Nous avons donc un rôle absolument capital et je suis heureux que que vous ayez choisi ce thème parce qu'il correspond certainement d'une manière spéciale à votre besoin étant donné, je dirais, la tranche d'âge que vous représentez, les enfants qui grandissent, qui sont derrière. Qu'avons-nous à cœur de communiquer à ceux qui nous suivent et à ceux qui veulent suivre le Seigneur, à ceux qui grandissent derrière nous? Et que sont-ils en droit de voir dans notre vie en tant qu'aînés si nous nous réclamons de Jésus-Christ? Voilà en quels termes nous pourrions poser le problème au début de cette série de réunions. Non pas pour que nous nous tapions dessus les uns les autres, parce qu'il y a quand même des différences d'âge même ici ce soir. Il faut beaucoup de grâce les uns à l'égard des autres. Et cette série n'est pas destinée à nous amener à nous dresser les uns contre les autres, nous le dirons aussi. Mais l'aîné a des responsabilités. Et puis le plus jeune en a aussi. Le plus jeune en a aussi. Et j'aimerais dire ici ce soir, dans cette introduction, parce que ce soir nous préparons le terrain de ce que nous allons partager, je voudrais parler et dire l'importance de faire route avec un aîné. Faire route avec un aîné. Josué est appelé à plusieurs reprises l'assistant de Moïse, ou encore le serviteur de Moïse. J'ai relevé trois passages où ceci est précisé. Dans Exode 24, verset 13, un texte que nous étudierons, Moïse se leva avec Josué qui le servait. La version Tob a traduit avec Josué son auxiliaire. Si vous allez dans le chapitre 33, verset 11, ou dans Nombre 11, verset 28, vous avez également cette expression. Trois fois. Et vous savez, quand le Saint-Esprit dit quelque chose à trois reprises au sujet de deux personnages, c'est qu'il veut nous rendre attentifs à une grande vérité spirituelle. Nous avons besoin de faire équipe. Les aînés ont besoin des jeunes et les jeunes ont besoin des aînés. Prenez dans le Nouveau Testament, je l'ai évoqué tout à l'heure, Paul et Barnabas. On oublie Barnabas fréquemment et c'est regrettable. Quand nous avons choisi notre nom d'édition, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors on a pensé à La Source, par exemple. Nous avons fait des recherches par Minitel. Parce qu'il ne faut pas prendre un titre qui existe déjà. On peut avoir un procès, donc il y a des règles à suivre. Oh, mais vous savez, de La Source, il y en a des rivières, des fleuves et des mers. Quand finalement nous nous sommes arrêtés à Barnabas, rien. Rien dans le Minitel. Pas d'association évangélique, ni même autre, qui porte ce titre. Or, Barnabas est un homme de Dieu qui est une des pierres d'angle de l'Église primitive. Parce que vous savez, pour former l'apôtre Paul, il ne fallait pas n'importe qui. Non seulement à cause du bagage intellectuel, mais aussi à cause du caractère. Les Écritures nous montrent que, avec le passé de pharisien nec plus ultra des pharisiens que Paul avait, et vous savez, ça déteint sur le caractère, ça. Il fallait vraiment que Dieu lui donne quelqu'un qui ait de l'envergure, qui ait un équilibre particulier, qui ait une autorité. Et c'est Barnabas qui a été choisi par Dieu pour le former pendant plusieurs années. Alors même cet apôtre, ce grand apôtre Paul, a été obligé de passer sous la houlette d'un aîné. Il a été obligé de faire ses premières armes, de travailler sous la conduite d'un responsable dans une communauté locale. Et il a travaillé, il a fait notamment équipe à Antioche, dans cette toute jeune église à majorité païenne. Et c'était Barnabas le patron. Et on le voit dans Acte 13, au début d'Acte 13, vous avez Barnabas qui est en tête et puis Saul qui est à la queue. Il fallait passer par là. Et l'apôtre Paul ne serait jamais devenu l'homme qu'il est devenu s'il n'avait pas accepté de passer par cette école. Nous pourrions évoquer Paul et Timothée. Dans l'ancienne alliance, David et Samuel. Samuel a été un véritable père spirituel pour David. lorsque David était pourchassé, en difficulté dans sa formation de futur roi, où en une dizaine d'années, il a connu peut-être une dizaine de tentatives d'assassinat de la part du premier roi, de Saül, c'était vers Samuel qu'il allait. Pour parler de ses soucis, de ses problèmes, il trouvait auprès de lui les conseils, la paix, le ressourcement dont il avait besoin. Et le décès de Samuel, au début d'un Samuel 25, a été un coup très dur, certainement, pour David. Et puis vous avez Élisée. Élisée, dont il est dit, c'est très intéressant, qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Tous ces hommes de Dieu, qui plus tard ont été des conducteurs, des responsables, des piliers, ils ont accepté de se placer sous la houlette de leurs aînés. Je pense à Marc, l'évangéliste, avec lequel Paul a eu des bricoles, comme disent les Écritures, et dans Actes 13, 5, il est dit que Barnabas et Saul, donc Barnabas étant tête, arrivaient à Salamine, annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide, littéralement, pour auxiliaire aussi. Le terme laisse entendre qu'il s'agissait dans le grec profane de l'époque, d'un rameur qui était sur son bateau et qui ramait sous les ordres de quelqu'un. Et ça donne une idée de travail, on se donne, on transpire et on obéit à quelqu'un, n'est-ce pas, qui est là au-dessus de nous et qui nous fait travailler. Je le souligne. Dans Deutéronome 1, 38, il est dit ceci, « Josué, fils de Nun, ton assistant ou celui qui se tient devant toi. » C'est intéressant. Le texte original dit « celui qui se tient devant toi. » C'est-à-dire utilise la même expression qui est utilisée parfois pour parler d'une personne quand elle se tient devant le Seigneur. Je ne veux pas dire qu'il faut prendre l'autre pour le Seigneur, mais montrer ce que cela signifie comme rapport. « Josué, fils de Nun, ton assistant, entrera dans le bon pays, fortifie-le. » Car c'est lui qui fera hériter Israël de ce pays. Fortifie-le. Voilà le rôle d'un aîné. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ce soir, dans cette introduction? Tout simplement parce qu'il importe de ne pas être un franc-tireur, indépendantiste. Et qu'un disciple de Christ conquérant, c'est d'abord quelqu'un qui accepte l'autorité des aînés en maturité et qui ne monte pas tout de suite en première ligne. Et c'est important ceci, tout simplement parce qu'il est arrivé trop souvent que des jeunes croyants montent trop vite sur les planches et succombent à l'orgueil et à d'autres péchés. L'autorité s'apprend à l'école de l'obéissance. C'est un langage qui n'est plus courant aujourd'hui. Et c'est même un langage qui est en train de disparaître de l'Église de Jésus-Christ. Dans nos pays. Pas partout, mais dans nos pays. Où on méprise très facilement et de plus en plus cette question de la relation entre les jeunes et leurs aînés. L'autorité s'apprend à l'école de l'obéissance. C'est une règle biblique, c'est un principe spirituel. Et il importe que dans notre vie, nous ayons des principes spirituels. Lorsque nous avons traité de Daniel au Geisberg, c'était un des éléments de notre réflexion. Daniel était un jeune homme qui avait des principes spirituels. Et il faut que nous ayons des principes. Bien sûr que ces principes soient tirés tout droit des Écritures. Et cela veut dire aussi ceci, c'est que pour nous, il importe que nous choisissions bien nos modèles. Et la crise de notre temps, vous le savez, c'est la crise des modèles. Dans le monde, ça devient très difficile de choisir des modèles en tant qu'aîné. Et dans l'Église aussi, c'est parfois un gros problème. Je bénis Dieu en réfléchissant à mon passé, à mon enfance et à mon adolescence, pour les quelques hommes de Dieu que Dieu a tout spécialement placés sur mon chemin et qui ont été vraiment pour moi un stimulant à cause de leur passion pour le Seigneur, de la qualité de leur témoignage personnel et aussi de leur souci pour un certain nombre d'entre eux de ma propre formation. Et pour le doigté que certains d'entre eux ont eu pour me donner un petit peu de responsabilité sans m'en donner trop. Et il faut du doigté. Il y a un risque à courir, c'est le risque de l'amour. D'accepter de donner des responsabilités. On court toujours un risque. Nous en courons aussi avec nos enfants, et puis alors Dieu en court beaucoup avec nous. Mais il faut accepter de courir ce risque. Mais en même temps, il faut voir devant Dieu comment le mesurer, n'est-ce pas ? Jusqu'où nous pouvons aller. Je pense à cette phrase de quelqu'un qui n'est pas du tout évangélique, mais qui s'appelait Victor Hugo. Et Victor Hugo écrivait ceci, « Il y a du feu dans les yeux des jeunes gens, mais de la lumière dans le regard des vieillards. » C'est de ce feu, cette vitalité dont nos églises ont besoin pour entraîner les autres à la conquête d'un monde en perdition. Elles ont besoin aussi de la sagesse des anciens, la lumière du regard des conducteurs spirituels pour canaliser l'action des jeunes. C'est vrai. Bien sûr, il n'a pas dit toute la seconde partie, il s'est arrêté, lui, à vieillard. Le reste, c'est moi qui l'ajoute. Il y a du feu dans les yeux des jeunes gens, mais de la lumière dans le regard des vieillards. Que Dieu garde votre vie d'église unie. Que jamais il n'y ait de fossé entre les aînés et les plus jeunes. Et il importe que ce que nous avons partagé soit alors respecté. Que les aînés aient à cœur de vivre près du Seigneur, qu'ils aient une saine vision de Dieu, comme nous le verrons, qu'ils aient à cœur aussi de guider, qu'ils sachent prendre des risques avec les plus jeunes et qu'il y ait de la part des plus jeunes un désir de respect. L'autorité s'apprend à l'école de l'obéissance. Ça, c'était simplement quelques mots en introduction générale, puisque nous considérons un aîné et un plus jeune, et que ça, c'est quelque chose qui existe dans toutes les églises. Et les conflits de génération dans les églises sont hélas des conflits très, très fréquents. Nous en venons à notre premier texte d'Exode 17, à partir du verset 8, puisque c'est le premier texte dans lequel Josué apparaît. Voilà le premier texte. Josué apparaît là subitement et il apparaît dans un contexte assez particulier. Et ce contexte assez particulier me fait dire ceci, et c'est une des notes que vous pouvez indiquer comme titre si vous voulez, l'ouvrier de Dieu, le disciple de Christ, est un combattant. Il est un combattant. La première chose qui nous est dit ici, c'est que dès la sortie d'Égypte, Amalek se dresse pour tenter d'empêcher l'entrée dans le pays de la promesse. Dès la sortie. Dès notre nouvelle naissance, quelqu'un l'a dit avant moi, Satan nous inscrit dans son carnet d'adresse. Ouais. Même si nous ne voulons pas donner à Satan la place qui ne lui revient pas. À côté de moi, dans le train, pendant une partie de mon parcours, j'avais un homme qui, me voyant lire quelque chose qui avait une connotation spirituelle, m'a dit « Vous êtes croyant ?» Et je lui ai dit « Oui ». Et nous avons donc eu un excellent entretien ensemble et nous avons pris rendez-vous pour plus tard. Alors il croit en Jésus-Christ, ce cher monsieur. Mais il m'a dit dans le courant de la conversation « Mais je ne crois pas à l'existence de Satan ». Je lui ai dit « Mais comment est-ce que vous pouvez croire à l'existence de Jésus-Christ et avoir de l'admiration pour lui ?» Si vous ne croyez pas ce qu'il a dit, puisque lui a parlé du diable. Et nous sommes tentés d'aller dans ces directions. Ou bien nous ne voulons pas du diable et on le laisse très loin derrière, ou bien nous ne faisons que parler de lui. Nous sommes toujours tentés par les extrêmes. Et il y a actuellement tout un mouvement, tout un courant dans nos milieux évangéliques qui donne au diable une place qui ne lui revient pas. Nous aurons l'occasion de le dire à la lecture, à l'étude de ce texte, il a été vaincu. Il agit, mais il a été vaincu. Et c'est une note positive qui fait du bien, même si nous avons à lutter contre sa puissance. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Est-ce que vous en rendez compte? Ah, mais ça, c'est une question. Quand j'arrive dans certaines églises pour des séries de réunions, j'ai l'impression que les églises certaines églises se reposent. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression qu'elles envisagent une série de réunions comme un combat. Est-ce que vous considérez cette série de réunions jusqu'à dimanche comme un combat? Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Nous allons vivre jusqu'à dimanche une guerre spirituelle. Ne croyez pas que l'ennemi laisse la parole de Dieu être proclamée sur la base des Écritures, de manière claire, sans essayer de faire quelque chose. Je peux vous dire que fréquemment, c'est avant de partir pour une série de réunions que j'ai des problèmes de santé. C'est pas quand je suis 15 jours, 3 semaines à la maison, sans réunion. Non, mais quand une série de réunions se prépare, curieusement, hop, il y a quelque chose qui se détraque. L'ennemi conteste, et quand ce n'est pas d'une manière, c'est d'une autre. Et nous devons réaliser absolument que nous sommes engagés, vous et moi, dans une guerre spirituelle. Et peut-être que certains l'ont vécu ces derniers jours, la contestation quant à la venue à la réunion du soir. Il y a des moments où on a l'impression que l'ennemi ferait tout pour nous empêcher de venir à tel ou tel endroit. J'ai sous les yeux un témoignage intéressant d'une demoiselle ou dame qui dit ceci. « Avant que je vienne ici, j'étais engagée dans une vie de plaisir sexuel et de jeu. Et je me sentais réellement bien. C'était passionnant. Depuis que j'ai décidé de me donner vraiment au Christ, j'ai découvert que la vie était un combat. La vie mondaine était plus facile et plus heureuse que la vie chrétienne. » Puis elle ajouta, « Mais pour rien au monde, je ne voudrais retourner en arrière. Il n'y a pas à tergiverser. J'ai goûté la réalité, bien qu'elle soit parfois douloureuse, je la désire encore davantage. La vie est faite de cela. Pour la première fois, je me sens vraiment vivre. Je suis dans le coup, à l'unisson avec moi-même. Cela fait mal comme le feu, mais cela en vaut la peine, car je me sens maintenant une personne. » Vous avez compris? Pourquoi faut-il le souligner? Pourquoi allons-nous devoir insister sur cette dimension? Mais tout simplement parce que nous aimons beaucoup le christianisme plaisir. Aujourd'hui, on aime ce qui nous permet de s'éclater. On aime courir d'un grand spectacle évangélique à un autre. C'est ce qu'on appelle le christianisme hédoniste, centré sur les plaisirs. Le carpe diem, jouir de la vie, cueillir le fruit de la vie aujourd'hui. C'est comme ça. Et nous avons oublié dans nos pays d'Europe occidentale que la vie chrétienne est un combat. Alors on a pris le somnifère. Et on vit à coups de tranquillisant, n'est-ce pas? La vie est un combat. La première des grandes découvertes de Josué, ici, de ce qui nous est dit dans les Écritures. Comment Moïse lui dit, voilà, tu choisis des hommes, tu sors et tu combats. Tu combats. Je ne sais pas si Josué avait envisagé ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'était la grande découverte. Une de nos devises est celle de Beaumarchais, cet auteur du Barbier de Séville, des Noces de Figaro, qui avait donc comme devise « Ma vie est un combat ». Et je pense à cet autre personnage, Georges Clemenceau, appelé par le président de la République, Raymond Poincaré, en novembre 1917, donc à une période très difficile de notre histoire. Et il est donc appelé à la présidence du Conseil.
Et il avait donc, vous savez qu'on lui a donné un surnom, le père de la victoire, mais il avait une profession de foi. Et sa profession de foi était celle-ci, politique intérieure, je fais la guerre, politique extérieure, je fais la guerre, je fais toujours la guerre. Alors maintenant, une remarque. Il nous faut combattre, c'est vrai, mais il nous faut combattre le bon combat. Ce n'est pas moi qui le dis, nous avons plusieurs textes dans les épîtres dites pastorales, 1 et 2 Timothée notamment, 1 Timothée 1, 18, 1 Timothée chapitre 1er verset 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Le bon combat. On pourrait traduire autrement, le beau combat. Parce que le terme utilisé dans le texte grec signifie aussi beau, le beau combat. Et le terme utilisé, le nom parle d'une expédition militaire ici. Une expédition militaire. Il évoque la stratégie, c'est le terme qui a donné stratégie en français. 1 Timothée chapitre 4 verset 10, nous travaillons. En effet, littéralement, nous peinons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout, principalement, donc, des croyants. Nous luttons, et ici, c'est le terme qui a donné en français le mot agonie. Agonie. Nous luttons, nous sommes en agonie, c'est un rude combat. Et le terme agonie, agona, était utilisé dans le cadre du monde athlétique. On l'utilisait aussi dans le langage militaire, mais c'était d'abord un terme utilisé par les athlètes. 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12. Combat, le bon ou beau combat de la foi. Il y a là un jeu de mots, pratiquement. Vous avez l'agonie qui revient à deux reprises. Ce sont donc des textes, ça n'apparaît pas en français. Mais dans le texte original, ce sont des termes extrêmement forts. Hein, vie, l'agonie, lutte, l'agonie, la belle agonie. La belle agonie de la foi. 2 Timothée 4, verset 7. Vous voyez l'insistance de l'apôtre Paul à Timothée, même rapport, Moïse, Josué, 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, ou le beau combat, encore une fois, le terme agonie qui revient ici, de manière, en tout cas la racine, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Un beau combat. Tout simplement parce qu'il y a un mauvais combat. Il y a un combat qui est laid, un combat qui est hideux dans son style, dans ses motifs profonds, dans les personnes, dans les situations qu'il vise. Il importe que nous ne nous trompions pas de cible et d'ennemi. Par exemple, dans 2 Timothée 2, 23, il est dit « Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. » Et le terme querelle pourrait se traduire par combat, par bataille. Elles font naître des batailles. Il ne faut pas gaspiller nos munitions à tirer sur nos frères. Et l'ennemi s'arrange dans une vidéo. Et puis vous êtes bien installé là pour vous tirer dessus. Et vous savez, quand ça commence dans une église, hein, l'ennemi jubile. Que d'églises divisées. Il y a, hélas, tant que nous sommes sur la terre, des divisions qui sont une nécessité. Il arrive un moment où, par souci de fidélité, on ne peut pas faire autrement. Pour la sauvegarde d'une église locale que d'en arriver là. Ça arrive, il faut être réaliste sur la terre. Mais enfin, que de divisions qui n'ont rien à voir avec cette dimension-là. De nécessité. Je pense à cette guerre entre les Britanniques et les Français au Canada en 1705. Et il y avait un amiral britannique, Phipps, qui commandait donc la flotte et qui avait reçu l'ordre de jeter l'ancre à l'extérieur de Québec. Et il devait attendre l'arrivée des troupes d'infanterie britannique et les soutenir ensuite lorsqu'elles attaqueraient la ville. Et la marine de Phipps arrive très tôt, et pendant qu'il attendait pour pouvoir se mesurer à l'ennemi, il est de plus en plus agacé, notre ami Phipps, par les statues des saints qui décoraient les tours d'une cathédrale toute proche. Alors il a ordonné à ses hommes de tirer sur ces statues avec les canons du navire. Et ils ont si bien travaillé, ils ont tant tiré que lorsque les troupes d'infanterie sont arrivées et que le signal d'attaque a été donné, ils n'avaient plus de munitions. Hein? Quand on tire sur les saints, hein? Dans l'église, ça existe aussi. Et il y a tant d'histoires de ce genre. J'ai sous les yeux l'histoire de ce qui s'est passé avant la célèbre bataille de Trafalgar en 1805. Lord Nelson, le fameux Nelson, ce héros naval, qui apprend qu'un amiral et un capitaine de sa flotte n'étaient pas en bon terme. Alors il fait appeler les deux hommes, il joint les mains de l'amiral et du capitaine, il les regarde bien droit dans les yeux et leur dit « Regardez, l'ennemi est là-bas !» Et c'est comme cela, en travaillant de concert, qu'ils ont gagné cette célèbre bataille. Alors c'est une question qui nous est posée. J'espère que je ne le sais pas, vous le savez. J'espère que certains d'entre nous ne se trompent pas de cible. Et qu'il n'y a pas des problèmes dans vos rapports les uns avec les autres. Que le pardon passe par là. Le pardon. Un des aspects les plus révolutionnaires de la vie chrétienne. Ah, si nous n'avions pas cette dimension-là. Pouvoir exercer la grâce les uns à l'égard des autres. J'espère que si le Saint-Esprit ce soir pointait le doigt en disant « Tu ne mènes pas le beau combat, ton combat est hideux. » Parce que ça va tellement vite. J'espère que vous vous laisserez interpeller par le Seigneur. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Galates 5, 15 ou encore Matthieu 12, 25, toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Matthieu 12, 25, le texte précédent était Galates 5, 15. Ou encore ce sage conseil de Gamaliel dans Actes 5, 39. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Parce qu'il est des combats dans l'église locale qui sont en réalité des combats contre Dieu. Et c'est en cela qu'ils sont terriblement graves. Lorsqu'on combat contre ses frères qui appartiennent au même Seigneur, à l'intérieur de la même communauté, pour des questions de caractère, de moi non crucifié, comme nous dirons, c'est contre Dieu que nous combattons. Peut-être simplement une première remarque, et nous nous arrêterons sur cette remarque tout à l'heure. Nous allons voir un certain nombre de caractéristiques de ce combat. Parce qu'il y a, dans le texte qui nous intéresse, des caractéristiques bien précises et très pratiques de ce combat entre Amalek et Israël. Première caractéristique, notre combat est contre un ennemi rusé. Un ennemi rusé, un ennemi qui rôde. Prenez Deutéronome 25, versets 17 et 18. Deutéronome 25, versets 17 et 18. C'est un texte qui éclaire le récit que nous étudions en ce moment. Deutéronome 25, versets 17 et 18. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. C'est un texte très fort. Et vous avez remarqué ces expressions, Amalek est tombé par derrière, sur ceux qui se traînaient les derniers. Pendant que le peuple dans son ensemble était las et épuisé. L'ennemi est rusé. L'ennemi est terriblement rusé. Dans son avant-dernier livre sur l'Apocalypse, Billy Graham évoque les différents cavaliers qui se succèdent, dont le premier cavalier sur un cheval blanc qui ressemble étrangement au Seigneur Jésus mais qui n'a rien à faire avec lui et qui part en vainqueur et pour vaincre. Et il dit ceci, nous sommes vulnérables concernant le temps. Beaucoup trop d'entre nous sommes si occupés que nous trébuchons dans un étourdissement. Épuisés, trop fatigués pour penser et encore moins pour nous remettre en question. Les chefs de secte gardent leurs membres très occupés. L'épuisement s'installe, la séduction suit. Au cœur du calendrier chrétien se trouve le jour du repos et au centre de ce jour du repos, il y a le point de vue de Dieu sur sa création. À moins d'entretenir notre force physique, nous perdrons aussi notre résistance spirituelle et psychologique. Au centre du lavage de cerveau se tient l'épuisement. Le cavalier sur le cheval blanc aime nous voir trop fatigués pour résister. Cela rend son œuvre de séduction encore plus facile. La fatigue. Nous allons être très pratiques. Un conquérant ne peut pas se permettre le luxe de dire du matin au soir « je suis crevé ». Pardon de le dire comme ça. Je le dis parce que j'ai connu un ami qui, chaque fois que je le voyais et que je demandais de ses nouvelles, me disait à peu près ceci. « Je suis crevé, je suis... je n'en peux plus. » Nous ne pouvons pas nous payer ce luxe. Parce que nous avons ce texte dans les Écritures qui nous dit notamment que l'ennemi profite de nos lassitudes pour nous attaquer d'une manière toute particulière. Si c'était le seul texte. Mais il se trouve que en 1970, peu de temps après mon arrivée en Bretagne, je suis tombé gravement malade, j'ai dû être hospitalisé à deux reprises, et entre deux hospitalisations, je suis allé me reposer, et donc réfléchir, méditer, prier, étudier la Bible en vue de l'avenir. Et curieusement, Dieu m'a appelé à étudier la question de la fatigue dans la Bible, sans doute parce que j'étais très concerné par cette question. Et donc j'ai simplement cherché dans la Bible tous les textes qui utilisaient le mot fatigue. Et j'ai été très édifié. Très édifié, parce que je me suis rendu compte que là où il était question de fatigue, très souvent dans les Écritures, vous avez l'ennemi qui pointe le bout de son nez. Nous allons prendre quelques-uns de ces textes, l'étude figure d'ailleurs dans ce livre en détail, par exemple dans 1 Samuel 14, 1 Samuel chapitre 14, vous avez un exploit dans la vie de Saül et de ses armées. Et à partir du verset 24, au verset 24, il nous est dit « La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. » Fatigante. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Chapitre 14, verset 24. Et personne n'avait pris de nourriture. Et si vous connaissez un peu ce texte, vous savez que quelqu'un Jonathan n'avait pas entendu, n'était pas là, qu'est-ce qu'il faisait ? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'il ignorait le serment, verset 27, que son père avait fait faire au peuple. Il avance le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel, ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Et puis, bien sûr, on lui fait remarquer la malédiction qui pèse. Et Jonathan de dire, verset 29, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ?» Verset 31, « Ils battirent ce jour-là, les Philistins, depuis Micmas jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué. » Et quel est le résultat de sa fatigue ? Il se jeta sur le butin, il prit des brebis, des bœufs, des veaux, il les égorgea sur la terre et en mangea avec le sang. Il pêche. Ils font quelque chose qui était interdit. Vous voyez, un excès de fatigue qui a amenuisé la victoire sur l'ennemi et qui a amené le peuple à se découvrir face à la puissance des ténèbres et à tomber dans le péché. Si vous prenez Genèse, restez, on va les prendre dans l'autre ordre. 2 Samuel 17, versets 1 à 4. 2 Samuel 17, versets 1 à 4. Il est question donc du quasi-parricide de David par un de ses fils, Absalom. Et ici, au début, Achitophel, un conseiller remarquable, d'ailleurs il le montre dans ce qu'il explique, un conseiller indique à Absalom comment il pense qu'il faut faire pour coincer David et donc prendre sa place. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même, je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies, je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. » Remarquez une fois de plus le lien. Achitophel était tout à fait de bon conseil. Il savait que quand on est très fatigué, on s'épouvante plus facilement, on est très vite déstabilisé par l'ennemi. Si vous allez au chapitre 21, verset 15, chapitre 21, verset 15, « Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishpi Benom, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. » Vous voyez, il était fatigué. Alors l'ennemi essaye de l'attaquer pour le tuer. Et à partir de là, d'ailleurs, David n'a plus pu sortir pour combattre. C'était devenu trop dangereux. Il devait désormais rester à l'arrière pour conseiller et prier en quelque sorte. Et puis encore un dernier texte, dans Genèse 25, versets 29 à 34. Genèse 25, versets 29 à 34. Vous connaissez cette histoire d'Ésaü et de Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. » À quoi me sert ce droit d'aînesse ? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Bien entendu, Ésaü a méprisé le droit d'aînesse parce que c'était un matérialiste de l'ancienne alliance. Un profane, il vivait hors du sanctuaire. Les choses de Dieu ne l'intéressaient pas spécialement. Mais ici, il y a une raison très intéressante pour nous, une raison immédiate, à savoir que Ésaü a perdu son droit d'aînesse parce que dans son matérialisme, concentrant toutes ses forces sur son métier, sur son activité principale, il est rentré complètement à bout, donc il était beaucoup plus aisément malléable par l'ennemi. Alors voyez donc quelques textes qui souligne l'importance, c'est une des bases de la vie chrétienne victorieuse aussi. les fondements d'un christianisme conquérant, c'est aussi de savoir gérer son corps, gérer son temps, savoir prendre la nuit pour la nuit et le jour pour le jour. À l'heure où on fait l'inverse, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, de plus en plus, on vit la nuit. Alors ne nous étonnons pas si nous sommes peut-être dans une période creuse spirituellement, peut-être que le Seigneur a simplement besoin de nous dire « va faire dodo ». Et c'est pour ça que nous allons terminer, pour que nous puissions aller faire dodo. Certains d'entre vous ont peut-être de la peine à supporter le décalage horaire d'une heure. Pour certains, c'est dur. Et ça peut être une période pendant laquelle l'ennemi attaque plus. Il essaye de nous déstabiliser, parce qu'il sait que pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Mais, vous savez, on ne va pas vivre dans les grandes théories pour parler d'un christianisme conquérant. Nous avons oublié souvent le béaba. L'ennemi aime nous voir occuper la nuit. Alors certes, il est des métiers où on doit travailler la nuit. C'est regrettable, c'est comme ça, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et je crois que quand cela arrive à un disciple de Christ, Dieu sait accorder une grâce particulière pour le temps où il doit le faire, où c'est dans le plan de Dieu. Mais quand on peut aller faire dodo assez tôt, il faut aller faire dodo assez tôt. Alors de temps en temps, le Seigneur nous le rappelle. Il nous dit, tu sais, tu t'es levé à un moment donné à 10h, puis à 10h30, puis à 11h, puis à 11h30, puis à minuit, puis maintenant tu es à minuit et demi, jusqu'où tu vas aller comme ça? Parce qu'on ne peut pas vivre un christianisme de conquête si le matin, on n'arrive pas à voir la victoire sur les couvertures du lit, sur les draps de lit. Alors c'est ce qui est là, j'en peux rien, c'est le premier texte, Amalek qui attaque des gens hyper fatigués. Et c'est Amalek qui attaque. C'est l'ennemi qui attaque. C'est pas Josué qui est allé le courir après, non, c'est Amalek. Parce qu'il y avait un état de lassitude et d'épuisement. Que cela nous donne l'occasion de faire le point dans ce domaine. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Et il importe que nous soyons des soldats en forme. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit d'être fatigués. Il y a des moments où il y a des fatigues qui sont à la gloire de Dieu. Je pense à Gédéon et à ses 300. Vous connaissez le texte. C'est un de mes textes préférés sur la fatigue. Fatigué, mais poursuivant toujours. Mais ça, c'était dans le plan de Dieu. Il y avait là une conquête qui devait aller jusqu'à son terme. Il fallait que la tête de l'ennemi, le cerveau, roule dans la poussière. Alors, nous avons de ces périodes dans nos vies, de ces moments d'opération, mobilisation dans notre vie où nous ne pouvons pas faire autrement et où on est au cœur de la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Alors Dieu nous porte, Dieu renouvelle nos forces. Mais il y a des moments où nous nous mettons à découvert, parce que nous ne sommes plus dans le plan de Dieu, concernant notre équilibre nerveux, notre équilibre physique, notre besoin de repos. Alors là, ne nous étonnons pas si l'ennemi se met à attaquer. D'où l'importance, bien entendu, de connaître sa stratégie. Connaître la stratégie de la puissance des ténèbres. Connaître sa stratégie. Vous avez entendu parler du général Patton, qui avait un sale caractère, et il paraît que les troupes, les chars d'assaut de Patton ont contre-attaqué en Afrique du Nord avec succès les forces de Rommel, le renard du désert. Et en plein cœur du combat, Patton s'est écrié « J'ai lu ton livre, Rommel, j'ai lu ton livre !» Et c'est à cause de cela qu'il l'a coincé. Parce qu'en effet, dans un de ses livres, « Attaque d'infanterie », Rommel expliquait en détail sa stratégie militaire. Alors Patton l'avait lu. Patton l'avait lu. C'est pour ça que nous sommes réunis jusqu'à dimanche. Il importe que nous connaissions la stratégie de la puissance des ténèbres. Et dans cette stratégie figure notamment cette dimension-là. L'ennemi profite de toutes nos méformes qui ne sont pas le résultat direct de notre obéissance au Seigneur. Tout ce que nous gaspillons, vous savez, l'ennemi, il ne le rate pas. À nous donc d'être vigilants, absolument vigilants. Écoutez Calvin, je vous laisserai aller dormir avec Calvin. Oh, c'est si bien écrit. Saint Paul, après nous avoir averti que nous avons la guerre, non point contre la chair et le sang, mais contre les princes de l'air, les puissances des ténèbres, les esprits malins, nous commande de vêtir les armes que nous puissent défendre en une bataille périlleuse. Il veut nous instruire que nous avons l'ennemi près de nous, un ennemi prompt en audace, robuste en force, rusé en cautèle, garni de toute machination, expert en science de batailler, et ne se lassant en nulle poursuite. Ne soyons donc point endormis en nonchalance, tellement qu'il nous puisse oppresser. Au contraire, que nous tenions toujours bon, et soyons toujours prêts à lui résister. Et d'autant que cette bataille n'a point de fin jusqu'à la mort, soyons fermes et constants en persévérance. Combien c'est important. Si vous lisez tout le début du livre de Josué, vous verrez, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 12, 6 au chapitre 12, de chapitre en chapitre, les méthodes de l'ennemi évoluent. Il utilise tous les moyens, toutes les stratégies, l'une après l'autre. Et des stratégies extrêmement subtiles, faites cette étude. De manière à pouvoir dire de temps en temps, j'ai lu dans le livre, je sais, j'ai lu ton livre. Nous, ce qui est bien, c'est que c'est le livre du Seigneur qui nous révèle la stratégie de la puissance des ténèbres. Nous nous arrêtons là ce soir, après ces premières remarques très pratiques, qui nous invitent aussi à bien nous reposer ce soir. Nous voulons prier, et Seigneur, en priant, nous te remercions. Nous te bénissons pour ta parole qui veut s'incarner dans notre réalité quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Tu es intéressé par nos 24 heures sur 24. Merci Seigneur de nous aider à être de ces auditeurs qui serrent ta parole, qui la gardent dans leur cœur. Merci de travailler en nous par le Saint-Esprit. Aide-nous déjà à partir de ces quelques remarques fondamentales à faire le point. Tu as certainement quelque chose à dire à l'un ou l'autre dans un des domaines évoqués ce soir. Et puis merci pour ta parole. J'ai lu le livre, nous voulons le lire, l'étudier, le serrer dans notre cœur pour vraiment vivre de toi et être des chrétiens, des croyants, des disciples de Christ, vainqueurs, même si c'est dans les larmes, mais être vainqueurs avec toi. Nous te glorifions, nous te bénissons, renouvelle les forces des uns et des autres et prépare la journée de demain pour qu'elle puisse être vécue pleinement dans ta présence. Gloire à ton nom, Père, en Jésus-Christ. Amen.